enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Nous sommes dans cette série sur les géants, différents géants dans chacune de nos vies. Et les Écritures, la Bible enseigne sur comment vaincre de manière très pratique, très concrète, très actualisée, très actuelle et contemporaine, pertinente à nos vies d'aujourd'hui, dans notre monde moderne, comment vaincre nos géants. Et la semaine prochaine, nous allons regarder ensemble à comment vaincre le géant de la peur, de l'angoisse et des inquiétudes. Ça, c'est dimanche matin prochain, invité des amis. Et ce matin, nous allons regarder ensemble à 1 Samuel 17 et comment vaincre le géant de l'incrédulité, le géant de l'impossible, et pour un impact qui inspire plusieurs pour Dieu. Il y a plusieurs types de géants. Il y a des géants auxquels nous devons faire face comme personne, comme individu, comme personne et enfant de Dieu. Des choses qu'on peut avoir besoin d'aide, on peut recevoir de l'aide, et l'Église est là, et les gens, il y a toutes sortes de ressources qui sont là pour vous aider à vaincre vos géants. Mais il y a de ces géants qui nous confrontent personnellement, qui sont dans nos vies personnelles, à lesquels on fait face en tant que personne et comme enfant de Dieu. Puis on va les adresser dans les prochaines semaines, géants de tentation ou d'échec ou de peur ou de dépression ou de pression, de colère, de toutes sortes de choses, d'échecs qui peuvent avoir pris place. Mais il y a aussi des géants que nous sommes appelés à abattre. S'il y en a qui sont à lesquels nous faisons face en tant qu'enfant ou en tant que personne ou enfant de Dieu, il y a des géants à lesquels que nous pouvons abattre ensemble, en tant que peuple et Église de Dieu, à laquelle nous sommes appelés, alors que chaque personne répond, se donne, se sacrifie, chaque personne donne de lui-même, il y a une promesse qu'il y a de grandes choses, une synergie divine qui prend place, ou alors que chacun répond à un appel de Dieu d'abattre des géants, il y a des choses qu'on accomplit ensemble qui peuvent avoir un impact, qui nous surprend nous-mêmes, dans nos vies, mais au-delà de nos vies, sur notre environnement. L'Église n'est pas un club à laquelle on appartient. L'Église chrétienne n'est pas une organisation. Les images bibliques sont beaucoup plus tissées, serrées, tricotées, serrées. La Bible parle de l'Église comme une famille, que si un membre souffre, nous souffrons ensemble. Lorsqu'il se réjouit, on se réjouit avec lui ou avec elle. La Bible parle de l'Église comme d'un corps, toutes sortes de membres différents. Il y a des mains, il y a des yeux, il y a un cœur, il y a différents membres au corps. Chaque membre a une fonction différente, mais a besoin l'un de l'autre. L'Église est comparée dans les Écritures. Il y a beaucoup d'images biblique qui parle de l'Église comme d'une armée. Nos amis pourraient venir nous témoigner ce matin, nous raconter anecdote après anecdote et illustration après illustration de comment, pour que l'armée avance, chaque personne est importante, elle est vitale, et chaque personne doit faire sa part pour que l'ensemble puisse vaincre. Et dans notre texte de 1 Samuel, alors qu'une seule personne, David, s'engage et s'engage contre son géant, il y a tout un peuple qui est inspiré. Il y a tout un peuple qui reçoit une nouvelle inspiration, et il y a tout un peuple qui réussit à vaincre l'impossible. Et avant, une minute avant, et pendant des années, ça avait pu durer, il y avait de l'incrédulité, il y avait un géant qui était impossible à abattre, il y avait un géant qui apeurait et qui décourageait. Mais alors qu'un homme se lève pour abattre son géant, une femme, que toi, que moi, que vous et moi, dans nos vies, on se lève ensemble pour servir et pour juste nous offrir à Dieu, il y a une possibilité pour un géant qui était impossible. Ce qui était impossible hier devient possible aujourd'hui. Et on retrouve dans notre texte de 1 Samuel, et les versets vont apparaître à l'écran, des portions de 1 Samuel 17, au verset 11, que Saül et tout Israël, le peuple entier, entendirent les paroles du géant. Et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui abattra ce géant et qui ôtera la honte du dessus du peuple du Seigneur? » Les grands géants d'impact pour le royaume de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, commencent avec des personnes qu'au-delà de leur géant personnel se préoccupent pour le nom de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour l'Église de Dieu. David a dit, qu'est-ce qui arriverait à si ce géant tombait pour tout le peuple, et réalisait qu'il y avait une honte, il y avait un poids, il y avait un géant qui narguait et menaçait le peuple entier. Qui est donc ce géant pour insulter l'armée du Dieu vivant? Aujourd'hui, verset 46, l'Éternel, David s'adresse au géant Il dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Et la fin du verset dit, toute la terre, le peuple entier va se réjouir parce qu'Israël a un Dieu. Toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. La victoire appartient à l'Éternel. Il livre les géants entre nos mains. Dans le verset suivant, David se met en marche. Il va contre le géant. Il va abattre le géant. Et c'est magnifique. Alors que lui abat un géant, il y a non seulement une bénédiction pour lui, mais il y a tout un peuple qui reprend espoir. Il y a tout un peuple qui devient galvanisé. Il y a tout un peuple qui dit, si le géant est tombé, il y a quelque chose qui peut arriver à nous aussi. Et qui ceux qui étaient terrorisés et apeurés sortent de leur tanière et, spirituellement et s'en vont à la poursuite de ce qui leur faisait peur un instant avant. Et le verset 53, « Et les enfants d'Israël revinrent à la poursuite des Philistins et pillèrent le camp. » Et il y a une image de guerre que je vais commenter un peu plus tard. Et je m'excuse pour les dames et peut-être même certains messieurs. C'est une image un peu vivide. Mais la Bible nous dit que David est venu, il a coupé la tête du géant, a pris la tête. Et David, et j'aime ces petits détails dans la Bible, et David prit la tête du géant et la ramena dans sa maison à Jérusalem, dans sa tente avec les armes du Philistin. Des fois, on dit « Amen ». Des fois, on dit « Ouah ». Maintenant, tout le monde dit avec moi « Yash ». Yeah, man, la tête dégoûtante. Je vais revenir là-dessus dans quelques instants. Ce récit d'un homme qui se lève et dans quelque chose qui lui est personnel, mais avec le courage que Dieu lui donne, se lève pour servir, se lève pour répondre à un appel et qui, alors qu'il le fait, il y a une inspiration qui se communique à d'autres. Il y a une foi qui se communique à d'autres. Et il y a un peuple entier que le géant de ce qui était impossible avant. Vous comprenez que tout dans le chapitre 17, les gens répétaient et répétaient, c'est impossible. Ce genre de victoire-là n'est pas possible. Ce genre de croissance-là n'est pas possible. Ce genre d'accomplissement-là n'est pas possible. Pas ici, pas chez nous. Mais alors qu'un homme se lève et qu'il abat son géant, il y a tout un peuple qui se monte. Et il y a un géant qu'on abat ensemble. Et ça, c'est une histoire d'il y a 3000 ans. Mais c'est aussi, et je m'en adresse pendant quelques instants à nous en tant qu'Église, c'est une histoire qui est aussi contemporaine que les dernières années. Comprenez, pour ceux, il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus jeunes dans la foi ici, même les gens qui nous visitent pour les premières fois. Mais lorsqu'on parle au portrait spirituel de l'Église chrétienne dans la province de Québec, il y a toute une cohésion, il y a tout un développement au fil des années et tout le monde est d'accord, je ne vous ferai pas un cours d'histoire ce matin, pour dire que depuis 30 ans, depuis 40 ans, il y a un cynisme, il y a des gens un peuple qui est désabusé, qui est déçu, qui est amer, qui est blessé, qui quitte l'Église chrétienne. Et en ce qui concerne l'Église évangélique, à partir du début du siècle jusqu'à 1993, pas seulement nous, mais je donne l'exemple de notre Église qui a débuté en 1993, il y a un 75 ans où il y a des églises qui s'implantent, il y a des églises qui sont là, il y a une œuvre qui se fait, mais il y a toutes sortes de choses qui nous semblaient et qui étaient dites comme étant impossibles. C'est pas possible au Québec de restaurer le nom d'Église. C'est pas possible au Québec de voir un grand nombre de personnes. Combien de fois vous avez entendu, c'est fini, c'est trop dur ici, les églises sont mortes, les gens ne sont pas intéressés, les gens sont trop déçus. Il y a toute cette pensée qui était là, mais alors que, nous, et c'est pas seulement l'Église Nouvelle Vie, alors que les églises partout dans cette province reviennent aux Écritures, reviennent à Dieu, et chaque personne dit ensemble, je vais abattre mon géant, ensemble je vais servir avec ce que j'ai, il y a des géants d'impossibilité qui tombent, on est 3000 ici ce matin, mais je vous annonce, je vous prophétise que ce qui était impossible hier devient possible à chaque jour, et Dieu bâtit, et Dieu accomplit. Il est capable de le faire ici chez nous. Si quelqu'un devrait dire Amen, et quelqu'un devrait reconnaître que nous avons un Dieu qui est capable de nous faire vivre l'impossible. Pour que le géant de l'incrédulité et de l'impossible tombe, ce géant qu'on fait tomber ensemble, il faut un champion qui saisit que le surnaturel se prépare avec de la fidélité dans des choses qui semblent petites et moins significatives. Pour que le géant de l'incrédulité tombe, pour que l'impossible soit abattu, il faut un champion qui a soif de victoire et qui ne se laissera pas éteindre. Il faut un champion qui va sortir de l'ombre pour un témoignage et des exploits surprenants pour le Seigneur. Et il faut un champion qui va servir aujourd'hui et refuser le mot le plus dangereux du monde. Je vais terminer ce message ce matin en vous révélant quel est le mot le plus dangereux du monde. Et juste avant, dites à la personne près de vous, on a besoin de toi pour que le géant tombe. Dites ça à quelqu'un près de vous qui a besoin d'entendre. J'ai besoin de toi pour que le géant tombe. Pour que le géant tombe, il faut un champion, championne, qui va se lever et saisir le principe chrétien, le principe spirituel, que les plus grandes victoires sont accomplies alors que des centaines de personnes s'impliquent dans des choses qui semblent plus petites. qui semble sans signification. Le verset 20 nous dit que, alors que David était en préparation pour aller abattre son géant, David se leva de bon matin et remit le troupeau à un gardien. Il prit sa charge. Ça, c'est une phrase clé. Alors que chaque personne prend sa charge avec ses dons, ses capacités, ses talents, se donne, c'est là que la préparation se fait pour la victoire sur les plus grands géants. Et David a répondu, lorsque le roi du pays lui dit, « Pourquoi toi, tu penses que tu pourrais abattre un géant? » Il a dit, « Ton serviteur, parlant de lui-même, faisait paître le troupeau de son père, et quand le lion et l'ours venaient attaquer une brebis, je courais après, je le combattais, j'arrachais la bête de sa gueule. » C'est comme ça, verset 36, c'est comme ça, c'est ainsi qu'il en sera du géant qui a insulté le Dieu vivant. David répéta, l'Éternel qui m'a délivré du lion me délivrera aussi du géant. David comprenait, c'est comme ça s'est passé dans des choses qui semblaient bien petites, c'est alors que j'ai eu mes victoires, c'est alors que j'ai servi, c'est alors que Dieu était là, j'étais fidèle dans ces choses-là que personne ne voyait. C'est comme ça, le même Dieu qui m'a aidé lorsque je m'occupais d'une brebis que personne connaissait et dont personne ne se souciait, le même Dieu va m'aider à abattre le plus grand géant public. Et c'est un moment, ceux d'entre vous qui connaissez le contexte, David a servi pendant longtemps en dessous de ce qu'il aspirait à être. Il avait été appelé, un homme était venu et avait dit « Tu vas être le roi d'Israël » et c'était la vérité, avait donné cette parole sur sa vie. Il était appelé à de grandes choses, il était appelé aux plus hautes sphères de son pays. Et alors que la promesse lui a été donnée, il a commencé à y goûter, commencé à visiter le palais, à aller servir au palais. Le roi le reconnaît et alors qu'il va au palais et qu'il commence à y aller, il est continuellement ramené à cet endroit où son père le met dans le fond du champ et tu t'occuperas de ses petites brebis. Et comprenez-vous que c'est un principe là, que lorsque personne me voit, lorsque personne ne dans des choses qui semblent tellement petites, alors que je suis en train d'être fidèle et que je me donne le mieux que je peux de tout mon cœur, fidèlement, je le fais tout mon cœur, à cet endroit-là, il y a une préparation en moi. Dieu est en train de me préparer à amener des percées et à abattre des géants. Il y a quelque chose de surnaturel qui prend place. Et moi, j'ai une admiration pour des centaines et centaines d'entre vous qui, dans les choses qui vous sont confiées, dans l'Église ici, il y a près de 1000 bénévoles, se donnent. Et ce matin, c'est un message, dans un instant, pendant le message, on fait un appel à des bénévoles encore ce matin. On le fait toute l'année, mais un appel ce matin à des gens qui vont venir nous servir, à battre des géants. Et moi, je salue ceux qui le font avec minutie, le font de tout leur cœur. Et c'est une scène assez hallucinante, parce que David est non seulement avec des brebis, il est là du matin au soir, de la chaleur torride de la journée, au froid, qui gèle les os, qui glace le sang le soir. C'est en dessous de lui, et c'est déjà terrible pour lui d'être là. Et alors qu'il est avec des brebis, c'est tellement en dessous de lui selon sa perspective, puis il ne sait pas ce qui va arriver après. Alors qu'il fait ça avec fidélité, arrive un lion, arrive un ours. La majorité d'entre nous aurait dit, « Hey, c'est déjà tellement fort que je sois là, juste que je sois là. » Mais là, un ours, un lion, « Goodbye Charlie, I'm out of here. » Est-ce que vous comprenez? That's it for me. Mais il y a quelque chose de puissant. Le lion vient, ces brebis-là, Dieu me les a confiés. Et quelle scène hallucinante. Puis c'est tellement vivide. Encore une fois, les mots sont assez forts, c'est dans la Bible. Mais il est arrivé un moment où même le lion ou l'ours avait la brebis, avait ce qui était sans défense dans sa gueule. Puis moi, je suis allé, puis je l'ai enlevé de la gueule du lion, parce que personne ne me voyait, mais Dieu me voyait. Et personne ne le savait, et personne ne le saura, mais Dieu le sait. Et alors que je suis fidèle ici, je suis en train d'être préparé pour abattre de plus grands géants. Quelqu'un devrait dire amen. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais que vous preniez dans votre bulletin, il y a un petit formulaire qui est là, qui est vert. Prenez-le pendant un instant. On va appeler des gens. On va appeler des gens ce matin à venir nous aider dans des domaines spécifiques, à être des champions avec nous, pour nous aider dans des choses qui prennent place à chaque semaine à l'Église. Des gens qui viennent à chaque semaine à nous aider. Laissez-moi voir que vous l'avez. Faites comme ça que je puisse voir que vous avez bien le feuillet vert, tout le monde là. Le feuillet dit simplement, oui, je suis prêt, moi aussi, à servir le Seigneur et à être un champion pour Dieu. Bon, on va dans des domaines bien spécifiques dans lesquels on peut le faire. Ce dimanche matin, dimanche prochain, des tables à l'arrière en sortant. Il va y avoir une table Action Nouvelle Vie, une table Pouponnière et Éducation Chrétienne ou la Ligue, qui est toutes nos activités pour les enfants. Et il va y avoir aussi une table qu'on appelle pour les services auxiliaires, qui sont des gens qui servent comme placeurs, qui servent dans le stationnement, qui servent ici à l'intérieur, dans le sanctuaire et dans différentes sphères. Équipe de placeurs préposés au stationnement, équipe de sécurité. Des gens, des champions qui vont dire, moi je veux, dans des choses qui semblent petites, je veux me donner. Puis je vais le faire de tout mon cœur. Des centaines le font. Moi, on a besoin de vous ce matin. On a besoin de vous dans les pouponnières. Nous avons des centaines d'enfants à chaque dimanche qui sont dans les pouponnières. Puis on a des centaines de bénévoles, hommes et femmes, qui les aident. Puis quelques centaines d'enfants à chaque dimanche. Dites à la personne près de vous, ça fait des couches, ça, mon ami. On a besoin de vous. Ce matin, je veux saluer ceux qui le font. mais je veux faire un appel. J'appelle toutes les mamans utilisatrices. Toutes les mamans que vous avez un enfant que vous amenez à l'éducation chrétienne ou vous l'amenez à la pouponnière, à moins que vous soyez malade, à moins que vous soyez pour des raisons physiques ou des raisons importantes que vous ne pouvez pas être là, on demande à toutes les mères de participer. Ce matin, vous allez remplir la formule, la remettre, on va vous contacter dans les prochaines semaines. On fait un horaire, c'est une semaine en rotation à toutes les plusieurs semaines. Alors, on appelle chaque maman à dire, moi, je ne serai pas seulement une qui bénéficie, je veux m'impliquer. Je veux moi aussi être une championne. J'appelle à tous les jeunes, 16 ans et plus, on a besoin de filles, de gars qui vont venir nous aider dans les pouponnières. J'appelle aussi à tous les grands-parents, tous les papis, tous les mamies. Vous avez de l'énergie. Moi, je crois qu'il y a des larmes. Il y a des dimanches que je passe dans les pouponnières. Il y a des enfants qui sont là, ils pleurent avec une onction et une intensité hallucinante. Et combien savent qu'il y a des larmes que juste les cheveux blancs de papi et de mamie peuvent éteindre, peuvent essuyer? Moi, je suis un papi et je peux vous dire qu'il y a des moments où il n'y a personne d'autre que papi qui peut consoler. Dites amen, tous les papis qui sont ici. On a besoin de grands-parents qui diraient, je vais y aller, moi, une dimanche. Je vais y aller une dimanche à toutes les deux semaines, à toutes les trois semaines. Je vais y aller. Tous ceux qui y vont reçoivent le message gratuitement. On veut que vous y alliez, que vous puissiez nous aider. Je veux appeler tous ceux qui sont ici, qui ont déjà servi auprès des enfants. Vous êtes chrétien, vous connaissez le Seigneur, vous connaissez la Bible. Vous pouvez nous aider, on va vous former. Vous pouvez être un assistant ou être un enseignant. Je veux réveiller dans vos cœurs des gens qui ont pris des moments d'arrêt, de repos et qui sont bien, mais que ce matin, le Seigneur dit, aujourd'hui, seras-tu un champion. Aujourd'hui, vas-tu te lever. Et alors que vous allez le faire dans les classes, auprès des pouponnières, dans l'éducation chrétienne spécialisée, et aussi dans ce qu'on appelle la Super League. Nous avons des classes spécial à tous les dimanches matins pour des enfants qui ont des problèmes, que ce soit qu'ils sont trisomiques ou qu'ils sont des problèmes d'autisme ou des problèmes de développement, des problèmes d'apprentissage. On a toute une équipe qui est là et on fait des classes spéciales pour eux. Mais on a besoin de parents pour venir aider. On a besoin de gens qui vont venir aider à l'équipe qui est déjà là. On voudrait augmenter le nombre de classes. On voudrait augmenter les services à ces enfants. Combien croient que le cœur de Dieu prend plaisir à voir à chaque dimanche une attention spéciale donnée à la Super League, à des enfants qui peut-être ailleurs sont négligés, mais qui reçoivent une attention spéciale dans l'Église du Seigneur? Combien croient que le cœur de Dieu prend plaisir à cela? Alors, on vous appelle à être un champion. Et vous, vous allez vivre des choses surnaturelles. Alors que des personnes comme ça le font, il y a des géants qui tombent. Il y a des bénédictions qui prennent place. On reçoit beaucoup de lettres. Je vais en lire deux ce matin. Mais il y en a une que j'aimerais vous lire d'une dame qui a écrit concernant les pouponnières et aussi la fête de la famille. Le soir de l'Halloween, on a eu une fête ici, près de 2000 enfants et parents qui étaient là. Et elle écrit, Pasteur Claude, je vous écris pour que vous disiez merci à toute l'équipe des pouponnières et de la soirée fête de la famille. Je suis monoparentale et la gentillesse des femmes de la pouponnière me touche à chaque semaine. Ces femmes sont devenues presque mes meilleures amies. Elles me parlent, elles prient avec moi. Elle m'écoute, elle me donne des conseils. Je suis une jeune maman de 22 ans, monoparentale. C'est mon premier enfant et je n'ai pas de famille. Mon amie, puis elle nomme une dame des pouponnières, je n'aimerais pas ici, mais qui est devenue vraiment comme une sœur, une mère pour elle. Elle dit, mon amie qui est là régulièrement et qui prend si bien soin de mon bébé, m'a même invitée à prendre un café. Elle m'a aidée à me sortir du trou. Elle est venue garder ma fille pour me donner une soirée pendant 6 semaines. Comprenez-vous? David était en charge de garder les brebis, mais il a fait plus. Il y avait quelque chose dans son cœur qui a dit, moi, je veux faire plus. Il faut que j'aille au-delà de plus. Puis je veux bien expliquer, ce n'est pas un service qu'on offre dans le pouponnière qu'on va aller garder vos enfants à la maison pour les prochains 6 mois. Mais c'est une dame ici qui a quelque chose sur son cœur. Il y a un lien qui s'est développé avec une dame. Puis j'ai un cours à prendre, j'aurais besoin d'une gardienne, etc. Elle est venue pendant 6 semaines et j'ai pris un cours un soir par semaine. Mercredi, le soir de l'Halloween, j'avais invité ma sœur et son mari avec leurs enfants à la fête de la famille. Ils ont dit, on y va seulement 15 minutes, puis on s'en va passer l'Halloween après. Ils sont restés plus de 2 heures. Il n'y a pas eu d'Halloween ce soir-là pour eux. Ils ne revenaient pas de tout ce qui prenait place cette soirée. Le plus beau, c'est qu'après, on a parlé de Dieu jusqu'à 11 heures. J'ai prié avec eux. Il y a un moment de réconciliation entre moi et ma sœur que je ne pensais même pas qu'il pouvait arriver. Elle dit, merci aux bénévoles. Merci à un ange dans les pouponnières qui a fait du bien, qui a fait bien plus que du bénévolat, mais qui est devenue une amie, un cadeau de Dieu pour moi qui en avait bien besoin. Et je dis moi aussi merci pour ces anges et j'appelle des centaines de nouveaux anges à se joindre aussi et à dire moi aussi, je vais être un champion. Il faut un champion qui saisit que le surnaturel se prépare dans la fidélité, dans les petites choses. Il faut un champion qui a soif de victoire et qui ne se laissera pas éteindre. Autour de David, en route vers l'accomplissement, il y avait toutes sortes de voix qui venaient contre lui. Et c'est sa soif de Dieu, sa soif de voir Dieu agir, sa soif d'accomplissement, sa soif pour Dieu qui lui a permis d'aller au-delà de toutes les voix qu'il entendait. Et portez bien attention aux voix qui bombardaient et cherchaient à empêcher David d'accomplir ce que Dieu voulait qu'il fasse, parce que ces voix-là sont dans vos oreilles et contre votre cœur aujourd'hui. David avait des gens autour de lui, il y avait toutes sortes de gens qui étaient là. Il y a ceux qui ne voient que les géants. Il y a ceux qui se spécialisent dans le négatif, dans tout ce qui peut pas arriver. Puis pourquoi c'est impossible? Puis pourquoi c'est dur? Puis pourquoi j'ai pas le temps? Puis pourquoi je peux pas le faire? Puis pourquoi c'est décevant? Chacun disait, avez-vous vu ce géant? C'est pour humilier ou déshonorer le peuple de Dieu qu'il monte. Et à chaque fois que tu veux faire quelque chose pour Dieu, il y aura toujours des gens autour de vous qui vont juste souligner tout ce qui est négatif, tout ce qui est impossible, puis tu devrais pas, puis on n'a pas le temps, puis tu vas être déçu, puis c'est difficile, et etc. Il y avait ceux qui ne voyaient que les géants, les experts de l'impossible. Il y a ceux qui parlent de réveil futur, mais ne font rien pour abattre les géants du présent. Il y avait ceux qui étaient autour de David, puis ils savaient, voici ce qui arriverait si on abattrait le géant, voici ce qui arriverait si on abattrait le géant. Mais à chaque jour, dans l'immédiat, ne prenaient aucun pas pour abattre le géant qui était devant eux. Il y avait ceux qui veulent même nous éteindre. Ils veulent vous éteindre, ils veulent vous niveler par le bas. Il y avait un frère de David qui s'appelle Eliam, et lui était supposé être au combat, était un soldat aguerri. Mais son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, 1 Samuel 17, 28, a été enflammé de colère. Et il a dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé le peu de brebis que tu avais dans le désert? Qu'est-ce que tu fais ici? Toi, retourne-toi à des petites affaires. Je connais ton orgueil, la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. J'aimerais vous dire que il y a parfois des gens qui sont eux-mêmes en train de couler dans des sables mouvants, d'incrédulité, d'amertume, de non-implication, d'impossibilité, de négativisme. C'est même pas assez pour eux de couler. Ils veulent que vous couliez avec lui. Eliab était apeuré. Il n'avait plus aucune force. Il laissait l'ennemi venir le narguer. Il était caché derrière son rocher. Puis c'était pas suffisant pour lui d'être là. Il se sentait menacé. Il se sentait interpellé. Puis il sentait le besoin d'écraser celui qui voulait se lever. Sans juger ou mépriser qui que ce soit, comprenez que lorsque tu veux faire quelque chose, lorsque tu veux apporter un changement à ta vie, lorsque tu veux abattre un géant, il y aura toujours une voix qui essaye de t'abaisser dans la médiocrité, t'abaisser à leur niveau. Et on ne juge qui que ce soit, mais j'espère que vous recevez ce matin l'esprit qui dit, toutes ces choses-là peuvent m'aider, mais moi, j'ai soif de voir mon géant tomber. Puis je veux le voir, je veux voir le miraculeux s'accomplir en moi. Il y avait ceux qui même sont prisonniers des limites et impossibilités d'hier et essaye de vous les imposer. C'est une scène qui est sérieuse, mais à la fois humoristique, parce que le roi, le chef de l'armée à ce moment-là, Saül, n'avait plus aucun courage, était apeuré lui aussi. Le géant venait le narguer. Il avait connu Dieu, si vous connaissez son histoire, mais il s'était éloigné, il s'était refroidi, son cœur est tiède, son cœur est apeuré, son cœur est froid. Et alors que David se lève pour aller abattre le géant, finalement, Saül daigne le laisser aller. Il dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Et Saül revêtit David de sa propre armure, mais David entreprit de marcher avec l'armure de Saül sur le dos, mais il lui dit, je suis incapable d'avancer avec tout cela, et il s'en débarrassa. C'est une scène qui est presque humoristique. David dit, je vais aller au combat, et Saül dit, ok, tu peux y aller, mais tu vas prendre mon armure, puis je vais la mettre sur toi. Et cette armure représente son passé, ça représente les exploits qu'il avait peut-être fait dans le passé, mais qui n'avaient plus aucune utilité aujourd'hui. Et les Écritures nous disent plutôt que Saül était un homme, une tête et épaule au-dessus de tous les autres. C'est un grand gaillard. Certains commentateurs et historiens disent 6 pieds 4, un grand gaillard. Et David était un jeune adolescent physiquement délicat. C'est une scène presque comique. Alors que Saül lui dit ça, David dit rien, accepte pendant un instant. Mais lorsqu'on met littéralement, et vous lirez le texte, il met le chapeau, il met le bouclier, il met l'armure sur lui, David est perdu dans l'armure. S'il était allé comme ça au combat, le géant aurait vu arriver une armure avec personne dedans qui marchait tout seul. Et David en vient à cette réalisation, c'est pas du mépris, c'est pas du jugement, c'est pas de l'accusation, mais il dit, je ne peux pas avancer avec ça. Tes exploits et tes échecs d'hier me limitent aujourd'hui. Je suis limité aujourd'hui parce que si ces choses-là sont d'hier, ça c'est l'armure d'hier. J'ai besoin de m'en débarrasser afin d'aujourd'hui aller avec ce que Dieu m'appelle à faire. Je dis à chaque personne ici, honorez hier, appréciez hier, mais ne laissez pas rien ni personne vous limiter avec les limites d'hier, parce que c'était impossible hier ne veut pas dire que ça va être impossible aujourd'hui. Et Dieu a une nouvelle armée avec de nouvelles armes pour de nouveaux géants. Le champion a soif de victoire, il ne se laissera pas éteindre. Le champion va sortir de l'ombre pour un témoignage et des exploits surprenants pour le Seigneur. David prend sa pierre, sa fronde, et il s'en va vers, contre le géant. Il lance, vous connaissez le texte, lance la pierre, le géant est abattu. Verset 50, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le géant. Il le terrassa, il lui ôta la vie, sans même avoir d'épée à la main. Ça, c'est pour tous ceux qui disent, ben, moi, j'ai pas de talent, je suis pas capable de faire ça. Le Seigneur veut te prendre avec ce que tu as. Tu respires ce matin? Combien d'entre vous, vérifiez si la personne à côté de vous respire encore. Tu respires, tu as un cœur, tu peux parler, tu peux aider, tu peux aimer, tu peux écouter, tu peux secourir. Tu dis, tu as eu la tête remplie de toutes les armes que tu n'as pas. Il y avait toute une armée d'experts qui avaient toutes les armes possibles, mais c'est celui qui avait un cœur disponible et disposé qui a abattu le géant. Le géant a été abattu sans même une épée à la main par un gamin qui s'est rendu disponible à Dieu. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins. Et pillèrent leur camp. Je reviens à cette scène qui m'est chère. David prit la tête du géant et la porta à Jérusalem et il l'a mis dans sa tente avec les armes du Philistin. Quelle scène hallucinante. David a vécu ce miracle-là, le géant qui est tombé, puis il a coupé la tête du géant pour s'assurer qu'il était bien mort et prend la tête et s'en va littéralement avec, puis la met. Voilà. Quelle décoration extraordinaire dans le salon au-dessus de la TV Plasma. Est-ce que vous comprenez, tu m'étais? Quelle scène extraordinaire. David a ramené à la maison, suivez-moi bien, David a ramené à la maison un témoignage de comment c'est extraordinaire de servir Dieu. Et vous, qu'est-ce que vous ramenez à la maison? Qu'est-ce que vous ramenez à la maison? Est-ce que votre service pour Dieu fait que vos enfants disent « c'est tellement extraordinaire, c'est tellement beau ». Qu'est-ce que vous ramenez à la maison? Je peux imaginer David qui est là. Il voulait, c'est quelque chose, c'est pas dans l'orgueil ou la vanité, mais il avait fait un pas, il avait osé le cœur, il avait battu la chamelle, il s'était mis en marche. Puis Dieu avait fait quelque chose d'extraordinaire. Combien d'entre vous dans votre vie, vous avez fait un pas pour Dieu? Vous l'avez jamais regretté, ce qu'il a fait est infiniment plus grand que n'importe quoi que vous auriez pu imaginer. Et vous pouvez imaginer David, c'était pas dans l'orgueil, mais il a mis ça dans sa maison, les armes du Philistin, la tête. Vous pouvez être sûr que tout le monde qui rentrait, David disait, c'est moi qui ai fait ça. Regardez, et vous l'imaginez, à chaque fois qu'il y avait un nouveau voisin ou quelqu'un qui arrivait et puis qui posait, avait le malheur de poser la question, « C'est quoi cette affaire-là, dégueulasse? C'est quoi cette affaire-là au-dessus de la TV? » Et là, les enfants disaient, « Oh non, ne m'en dis pas ça! » Parce que là, David dit, « Oh, laisse-moi te raconter! Il était gros, il était immense, il était puant, c'était incroyable, mais je l'ai abattu. J'aimerais vous dire, je veux ramener dans ma maison des témoignages de comment c'est extraordinaire de servir Dieu. » Pour vous dire, oui? Ça, c'est une scène comme dans un film. Lorsque Saül vit David marcher à la rencontre du géant, il dit à Abner, chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il fils? C'est qui ça? » En québécois, « D'où ce qui sort? C'est qui ça? On est toute une gang de soldats aguerris. C'est qui, lui? » C'est quelqu'un qui a décidé de sortir de l'ombre pour servir Dieu. Juste de dire, « Moi, je vais donner à Dieu ce que j'ai. » Abner dit, « Seigneur, aussi vrai que ton âme est vivante, je ne sais pas c'est qui. Informe-toi de qui est ce jeune homme. » C'est comme une scène de film. Ils sont ensemble, imaginez la scène, tous les soldats aguerris en rang, mais ils ont peur, sont terrorisés par le géant. Et tout à coup, ils voient ce garçon-là enlever l'armure de Saül, là, il est complètement désarmé. Et puis la Bible nous dit que la minute qu'on l'a laissé libre pour le faire, David s'est mis à courir vers l'ennemi. Là, tu peux voir tous les experts en guerre dire, « Ah, oh, c'est fini, pauvre, lui. C'est fini. » Et là, la fronde, le géant tombe, la tête, les troupes qui sortent. Oh, on est capable, galvaniser, encourager. Et alors que la scène se passe, les deux grands experts, les soldats, Saül, le chef de l'armée, puis son assistant chef, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est qui ça? C'est le fils de qui? D'où il sort, celui-là? Sorti de l'ombre pour faire des grandes choses pour Dieu. C'est une mauvaise question. Il dit, c'est qui, de qui cet homme-là est-il le fils? C'est quoi son arrière-plan familial? C'est quoi les limites de son passé? Comment ça se fait de qui ce garçon-là est-il le fils? C'est la mauvaise question. Ce garçon-là, le plus important n'était pas qui était, ce qu'était son arrière-plan, de qui il était le fils sur cette terre. Ce qui était important, c'est que c'était un fils de Dieu. C'était quelqu'un qui avait l'esprit de Dieu en lui, la grâce de Dieu en lui, le cœur de Dieu en lui et qui va abattre un géant. Il faut quelqu'un qui va se lever, prêt à sortir de l'ombre pour ramener à la maison un témoignage surprenant. Regardez au formulaire alors que j'arrive à la fin du message, s'il vous plaît, votre formulaire vert à la fin du message. J'aimerais vous défier. Dans les pouponnières, oui, auprès des enfants, mais nous avons besoin aussi de bénévoles dans l'équipe d'Action Nouvelle Vie, dans l'équipe de préposés au stationnement, équipe de placeurs et équipe de sécurité. Si vous êtes avec nous pour les premières fois, à côté, ici, de l'Église, il y a un bâtiment, un organisme que nous soutenons, que nous avons aidé à fonder, que nous soutenons, qui s'appelle Action Nouvelle Vie, qui vient en aide à plus de 8000 personnes à chaque mois. Des banques alimentaires, un service aux jeunes mamans avec leurs bébés, service à des étudiants qui vont à l'école, service à des immigrants qui viennent. Et depuis des mois, vous nous entendez, vous partagez, c'est vrai, et on se réjouit que nous augmentons continuellement. Les besoins sont effarants sur la Rive-Sud et nous augmentons continuellement. Nous avons élargi, nous avons un nouvel entrepôt. La directrice est ici ce matin, Suzanne, et vous dirait que dans les dernières semaines et mois, nous sommes tellement reconnaissants. Il y a beaucoup de nouveaux approvisionnements de nourriture. On a plus de nourriture à donner. On a plus de gens à aider. On multiplie des programmes. On ouvre un nouveau programme qui vient traduire l'espoir, qui vient en aide à des familles qui arrivent, immigrants ici, démunis et menacés et sans ressources. Et ce que nous avons besoin ce matin, c'est des bénévoles. Nous avons besoin des gens qui vont venir du lundi au vendredi, qui vont venir passer une journée, des gens qui vont sortir de l'ombre et dire « Moi, j'y vais ». Moi, je vais répondre à cet appel. Je vais cocher ça sur le feuillet. Je vais donner mon nom, mon numéro de téléphone. On va m'appeler. Il y a des formations qui sont données. On va vous prendre selon vos disponibilités. Ça peut être une journée par semaine. Ça peut être. Mais il y a des centaines de personnes disponibles ici pour être dans les entrepôts, pour être avec les petites dames, pour être aider dans les différents organismes. Ça peut être pour conduire un camion. Ça peut être pour travailler à Action. Nous avons besoin de vous ce matin. Des gens qui vont sortir de l'ombre et dire, je veux, moi, faire ma part. Je veux prendre ma part. Nous avons besoin des placiers, besoin des hommes, des femmes qui vont aller dans le stationnement l'hiver, dans les mois qui s'en viennent. Ça va être un dimanche par plusieurs semaines, mais pour accueillir les gens, pour les aider, pour les soutenir. Il y a entre 3 et 4 000 personnes qui viennent ici les dimanches. Il y a toujours des gens qui ont besoin d'être aidés, des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes qui arrivent pour les premières fois. Nous avons besoin de vous et nous vous appelons à sortir de l'ombre parce qu'il faut un champion qui a soif de victoire. Il faut un champion qui va sortir de l'ombre. Et je termine avec ceci. Il faut un champion qui va servir aujourd'hui et refuser le mot le plus dangereux du monde. Lorsque David s'est mis en marche contre le géant, il a dit ce mot. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Aussitôt, David se dépêcha de courir sur le champ de bataille à la rencontre du géant. J'aimerais que vous disiez à voix haute, aujourd'hui. J'aimerais vous dire que les champions qui vont abattre leurs géants ensemble, nous permettre d'abattre de grands géants ensemble, vont être des gens qui vont refuser le mot le plus dangereux du monde. David a dit « aujourd'hui ». Il a répondu « maintenant », au moment où Dieu m'appelle, au moment où le besoin est devant moi, au moment où j'ai une opportunité de faire une différence, « aujourd'hui », je réponds. « Aussitôt, je me mets en marche ». Et le mot le plus dangereux du monde, spirituellement, et dans beaucoup de domaines de nos vies, le mot le plus dangereux du monde, c'est le mot « demain ». Je le ferai demain. Je le ferai plus tard. Je le ferai une autre fois. Je remettrai à demain. La peur, la paresse, la procrastination qui fait que quelqu'un dit « j'entends le message aujourd'hui, mais peut-être une autre fois. Lorsque ça ira mieux dans ma vie, lorsque j'aurai plus de temps, lorsque j'aurai plus de sous, je donnerai. Lorsque j'aurai plus de temps, j'aiderai. Lorsque ça ira mieux, je pourrai penser à ce genre de choses-là. Demain. Demain est le mot le plus dangereux, le plus destructif. Demain a tué tellement de destinées. De gens qui étaient appelés à de grandes choses, mais ils ont toujours remis des décisions, des petits géants à abattre à demain, et leur vie a été gaspillée. Demain a privé des étudiants de leurs avenirs et de carrière exceptionnelle. Demain, j'étudierai. La semaine prochaine, j'étudierai. La semaine prochaine, je ferai mes examens. La semaine prochaine, je ferai mes travaux. Demain, je le ferai. Demain, je le ferai. A volé plein de gens d'accomplissements extraordinaires. Demain marque la différence entre le rêve et la réalité. Demain permet aux géants de continuer. Demain devient une mentalité, une contamination destructive. Demain nous vole nos moments divins où les géants seraient tombés. Alors que les musiciens s'approchent, je vais arriver à la fin du message avec... en vous présentant un couple que même ceux d'entre vous qui lisaient la Bible depuis des années, peut-être que vous ne les connaissez pas beaucoup. Ils sont dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, mais ils ont un message très, très important pour nous. Ils s'appellent Félix et Drusille. Ils sont trouvés dans Actes 24. Et je vous donne le contexte de qui ils sont. Antonius Félix était grec de naissance, mais il était appointé procurateur de la Judée par son frère. Et l'apôtre Paul va apparaître devant lui en tant que procurateur du pays dans Actes 24. Drusille, son épouse, était une des trois filles d'Hérode Agrippa. Félix l'avait séduite, convaincue de laisser son mari et ses enfants pour le suivre et le marier. C'était ça leur passé. Son père, Hérode Agrippa, était celui qui avait tué Jacques et avait emprisonné Pierre dans le but de le faire exécuter. On trouve ce récit dans les Actes des Apôtres. Son oncle, Hérode Antipas, était celui qui avait fait décapiter Jean-Baptiste. Son arrière-grand-père, Hérode le Grand, avait ordonné le massacre de tous les bébés mâles du pays dans le but d'éliminer Jésus. Ce couple-là sont un homme et une femme avec un arrière-plan humain sombre, lourd, mais à qui l'apôtre Paul offrira l'opportunité de s'engager envers le message de la vie qui peut transformer le pire des passés. Et on les retrouve dans Acte 24, et l'apôtre Paul, les circonstances, quelqu'un qui regarderait la scène dirait, bien, l'apôtre Paul a comparu devant, s'est retrouvé l'apôtre Paul devant Félix, mais en réalité, c'est Félix qui se retrouve devant Paul. Parce que lorsque Paul se retrouve devant lui, il se met à lui prêcher le message de Dieu. Celui-là lui communiquer le message de Dieu. Et regardez bien à Félix et Drusille, parce qu'il y a un miroir dans ce texte qui pourrait changer et sauver votre vie. Félix et Drusille représentent ceux qui remettent à demain et qui perdent la possibilité d'abattre leur géant. Félix qui savait, la Bible nous dit, vous lirez à la maison dans Actes 24, 22, Félix qui savait assez exactement ce qui concernait la voie, il connaissait le message, avait entendu l'Évangile, avait entendu le message, certains pensent par Paul et d'autres, les renvoya en disant, j'examinerai votre affaire plus tard, demain, peut-être plus tard, peut-être demain. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et les fit appeler Paul. Il entendit Paul sur la foi en Christ. Et la Bible nous dit le message de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul avait en québécois et en termes de prédicateur, il avait un méchant message pour Félix. C'est moi, lorsque je vais arriver au ciel, c'est un des premiers DVD que je vais aller commander lorsque je vais arriver au ciel. La prédication de Paul à Félix. What a message! Paul a commencé à parler. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas Félix devant Paul. C'est pas Paul devant Félix, c'est Félix devant Paul. Et Paul discourait, s'est mis à lui communiquer sur la pureté, verset 25, sur la justice, sur la maîtrise de soi, sur le jugement à venir. S'est mis à lui dire, Félix, Drusille. Un homme et une femme qui avaient une vie totalement impure, Dieu a un appel pour toi, puis Dieu est capable de te libérer. Et alors qu'ils sentent la conviction, l'apôtre Paul dit, je vais passer maintenant à mon deuxième point. Ouf, finalement, il va me lâcher sa pureté. Maintenant, laissez-moi vous parler de maîtrise de soi. À un couple qui était complètement hors de contrôle, avec un arrière-plan de génération en génération, de mal et manque de contrôle absolu de leur vie. Et après ça, celui qui était assis sur un juge, qui pense qu'il jugeait tout le monde, l'apôtre Paul lui dit, bientôt, tu vas te présenter devant celui qui est assis sur le vrai trône du jugement. Et Félix a été touché. Le texte nous dit, il a été saisi, certaines versions disent, il a été saisi d'une conviction, d'une crainte. Le mot grec dit, s'est mis à trembler. Et moi, si je me tiens sur le côté, je dis, c'est le moment. Félix, vas-y, réponds à l'appel, réponds au message, réponds, engage-toi, le géant est là. Félix, dis comme David, aujourd'hui, je réponds oui à Dieu, aujourd'hui, le géant va tomber. Félix, ouvre ton cœur, réponds, mets-toi en action. Drusille, tu peux pas imaginer tout le bien qui peut vous arriver si vous répondez à Dieu. Mais Félix et Drusille dirent à Paul, demain, il dit, pour le moment, retire-toi. Quand j'aurai le temps, je te rappellerai. Puis il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent, alors il l'envoyait chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. Et 2 ans s'écoulèrent ainsi. Il représente des hommes, des femmes qui connaissent la voix, connaissent le message de Dieu, qui entendent le message, qui veulent les bénéfices, j'aimerais ça, recevoir de ce message-là, et qui sont même touchés. S'ils l'admettraient une seconde, ça vient les chercher dans leur cœur, mais ils remettent à demain. Et dans ce moment-là où il a remis à demain. Il y a eu un moment de tremblement, un moment d'ouverture, un moment où Dieu a touché son cœur. Si Félix s'était juste engagé, avait dit, aujourd'hui, j'abats le géant, il y a toute la puissance, la grâce, toute la personne de Dieu qui serait venue à son aide. Mais alors qu'il se ferme, il s'endurcit, il perd le moment. Et c'est ça que demain fait. Demain vous fait perdre le moment, la possibilité aujourd'hui qui ne reviendra pas, la possibilité de faire et de vivre quelque chose de grand pour Dieu. 2 ans passèrent, puis on n'entendra plus jamais parler de Félix et de Drusille, qui vont s'enliser dans leur douleur, dans leur solitude, dans l'amertume de leur cœur et dans l'aveuglement de leur voix. Et je prie de tout mon cœur que toi et moi ce matin allons regarder à Félix et Drusil et dire, avec l'aide de Dieu, je serai pas assis ou debout avec eux. Je vais me mettre à côté de celui qui dit, non, pas demain. Aujourd'hui, je vais répondre à l'appel du Seigneur. Aujourd'hui, je vais m'impliquer. Aujourd'hui, je vais me donner. Et j'aimerais terminer avec un témoignage que j'ai reçu récemment, puis on va commencer ce cantique en terminant qui dit, j'élève mes mains, j'élève ma voix, je mets ma vie devant toi comme une offrande. J'aimerais que, si vous me le permettez, en terminant, que vous preniez le petit feuillet vert dans vos mains pendant un instant et dites, Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Puis je crois que des centaines d'entre vous, c'est votre matin. C'est aujourd'hui. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. Dans les pouponnières, avec les enfants, dans Action Nouvelle Vie, comme préposé, comme placeur. Je vais écrire mon nom, je vais m'engager. Puis aujourd'hui, je vais abattre un géant qui peut sembler petit et qui va me permettre de vivre des choses avec Dieu. On reçoit beaucoup de lettres ici, puis je remercie tous ceux qui écrivent. J'en ai reçu une récemment, puis elle m'a beaucoup, beaucoup touché parce qu'elle vient d'un placeur de notre église. Un monsieur qui, quand vous entrez à l'église, est à l'extérieur ou à l'intérieur, il vous aide, il peut être dans le stationnement, il peut aider des gens. Et puis, c'est quelque chose qui semble petit comme service pour certains, ou qui semble c'est loin de l'estrade ou loin d'en avant. Et c'est totalement faux et totalement ne pas connaître le royaume de Dieu que de penser que l'œuvre de Dieu se fait par quelques personnes à l'avant. L'œuvre de Dieu se fait, ne pourra pas s'accomplir. Le géant ne peut pas tomber si le pasteur et chaque personne n'accomplit pas ce que Dieu les appelle à faire. Mais l'œuvre de Dieu ne peut pas s'accomplir à chaque dimanche. Le géant ne peut pas tomber à moins que chaque personne ici, dans toutes sortes de places dans la vie de cette Église, se donne, abat son géant, sacrifie, sert et dit pas demain, aujourd'hui, je réponds à Dieu. C'est pour ça que cette lettre est très, très précieuse pour moi. Parce qu'elle vient d'un monsieur qui a répondu à cet appel que vous entendez ce matin. Et alors qu'il a répondu, Dieu a été au rendez-vous. Le géant a tombé. Il y a quelque chose que lui a vécu qui est magnifique. Je termine avec ceci. Cher Pasteur Claude, je vous écris pour que vous lisiez cette lettre à l'avance, si cela est utile. Je suis chrétien depuis 15 ans. Je m'étais beaucoup impliqué au début dans notre Église. Mais il y a eu division, déception. J'ai arrêté de m'impliquer, puis d'aller à l'Église pendant 3 ans. Mon épouse a commencé à venir à Nouvelle Vie, puis je l'ai rejointe. C'est une nouvelle église pour nous, un nouveau départ. Dieu m'a béni, Dieu m'a restauré, mais je ne m'impliquais pas. Après 3 ans, j'ai donné mon nom pour être placeur. Je suis chef d'entreprise, je voyage beaucoup, je n'ai pas beaucoup de temps, je ne suis pas chanteur, je ne suis pas musicien et je ne suis surtout pas prédicateur. J'aime mieux vous laisser ça à vous. J'ai commencé comme placeur et je me sens utile. J'accueille les gens, je leur souris, je les dirige, je réponds à leurs questions. Je prie pour chaque personne qui entre et je prie pour moi-même, pour que Dieu m'aide à être patient et accueillant. Ça a fait du bien à mon cœur de pasteur qui, je suis ici tôt dimanche à prier, Seigneur, que tu puisses toucher chaque personne qui entre ici. Ça m'a beaucoup touché qu'un monsieur qui est à l'arrière et des dizaines d'entre vous, alors que les gens rentrent et qu'il leur serre la main, lui, il prie que les gens qui entrent ici, Seigneur, puissent être touchés par toi. Puis moi, aide-moi à être le meilleur champion placeur possible. Parce que c'est un ministère que je fais devant Dieu. Il dit, il y a des mois, Dieu m'a surpris. Une dame âgée a eu un malaise et on l'a aidée à sortir. On a dû appeler l'ambulance. On était avec elle et sa sœur. La dame m'a dit qu'elle avait 71 ans et sa sœur avait 74. La dame vient à Nouvelle Vie depuis 2 ans, mais sa sœur venait pour la première fois et elle avait peur. Elle était très agitée de voir sa sœur si malade. On lui parlait doucement, on l'a rassurée, on l'a fait sourire en attendant l'ambulance. On a prié avec la dame. Avant de partir, sa sœur de 74 ans s'est mise à pleurer. Alors je lui ai dit, « Ne vous inquiétez pas, les ambulanciers ont dit qu'elle va être correcte. » Elle m'a dit, « C'est pas ça. » Mais ma sœur me dit que l'Église est devenue comme sa famille. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Mais alors que je vous regardais avec elle ce matin, j'aimerais vous dire que ses propres enfants ne sont pas gentils avec elle comme vous l'avez été. Ma sœur, elle dit, « Monsieur, ma sœur a eu une vie tellement dure. Elle était complètement seule. Elle est aimée ici par des étrangers comme à aucun autre moment de sa vie. Je comprends pourquoi elle vient ici et moi, je vous promets que je vais venir avec elle. Parce que Claude, depuis ce dimanche-là, je les vois toutes les deux ensemble à l'église. Les deux me donnent des gros becs à chaque fois qu'elles me voient. J'ai pas honte de le dire, j'ai pleuré dans mon auto ce dimanche-là et moi, j'ai pas honte de vous dire que j'ai pleuré en lisant cette lettre. Pleurer de joie que Dieu me permette d'être utile pour lui et de toucher la vie de quelqu'un. Je vous appelle ce matin. Il faut applaudir parce que c'est ça le miracle. On a tout le monde de pencher la tête. On va prier ce matin, mais je vais vous appeler. Je vais vous appeler ce matin à dire, je vais prendre ce feuillet, je vais remplir quelque chose que Dieu a mis sur mon cœur pendant que vous parliez, pasteur. Puis ce matin, moi, je vais aller répondre, je vais remettre ça au comptoir à l'arrière. Parce que je veux faire quelque chose. Je veux être fidèle. Je me lever pour défendre. Je me lever pour aimer. Je me lever pour servir les enfants. Les brebis, ce qui est fragile, ce que certains considèrent comme oublié ou de moindre importance. Puis je vais défendre, je vais aider, je vais me donner. Je veux me lever et je veux sortir de l'ombre pour servir Dieu. Il y a bien des voix qui m'avaient empêché jusqu'à aujourd'hui, mais je vais les faire taire. Parce que ce matin, j'ai soif, moi, de vivre quelque chose avec Dieu. Je veux prendre ma part pour que le géant tombe. Ce matin, je veux vivre, je veux ramener à la maison un témoignage. Je veux ramener dans ma vie une bonne odeur, un goût, quelque chose de joyeux, de beau. C'est tellement super de servir Dieu, puis j'ai vécu des choses extraordinaires en le faisant. Je pensais venir pour donner, mais c'est moi qui ai reçu plus. Je veux vivre des moments divins où les géants vont tomber. Et je ne serai pas Félix et Drusille. Je ne serai pas celui qui remet à demain. Je comprends que demain est le mot le plus dangereux du monde. Et je dis plutôt comme David, aujourd'hui, le géant va tomber. Aujourd'hui, je me mets en mouvement. Aussitôt, je m'élance. Et je me mets en mouvement pour répondre. Et Seigneur, je prie maintenant, mes mots sont bien insuffisants. Et ce message est bien peu. Des pains et des poissons que j'amène devant toi, mais c'est seulement toi qui peux nous bénir et multiplier. Alors je prie maintenant qu'au-delà de mes mots bien faibles, que ce soit toi qui parles à des cœurs partout dans ce lieu, une puissante conviction de l'esprit. Des gens qui avaient toutes les raisons valables de dire « je suis trop occupé, trop ci, trop ça, passé ». Blessé, apeuré par le passé, blessé, déçu, puissent être saisis et que la soif soit plus grande que tout cela. Et que les gens se lèvent pour dire « me voici, mon Dieu ». Je veux contribuer à abattre le géant. Je vais servir à Action. Je vais servir les enfants. Je vais servir dans les classes. Il faut que je revienne à servir les enfants dans les classes. Je veux servir comme placeur. Je vais servir dans le stationnement. Je veux venir me donner avec les autres. Je vais sortir de l'ombre. Et je vais ramener un témoignage à la maison. Et je dis non à demain et oui à aujourd'hui. J'élève mes mains. J'élève ma voix, mon Dieu. Et je mets ma vie devant toi comme une offrande. Seigneur, sers-toi de moi. Sers-toi de mes deux mains. Prends ma vie. Je te l'offre comme une offrande. Et que ceux qui désirent entrer ainsi avec moi puissent se lever. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et nous offrir ensemble au Seigneur? Est-ce qu'on peut entendre le cri, le cœur de tout un peuple?
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.